Drainville PM. Politique.
Une sincère préoccupation pour les défis environnementaux. On a bien reçu le message de la population pendant la campagne. On doit en faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. On va y travailler à notre façon, de façon pragmatique, en obtenant des résultats.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était le premier ministre François Legault, donc, lors de l'assermentation des ministres, pour discuter, évidemment, de cette rencontre hein, qui a eu lieu ce matin, donc, avec Dominique Champagne, là, qui a été l'instigateur de ce site-là, le Pacte, hein, www.lepacte.ca. Il y a au-dessus de 100 000 personnes qui sont allées signer le fameux pacte de transition écologique pour réduire les gaz à effet de serre. Bien, c'est Dominique Champagne qui a été l'instigateur de ça, qui a rassemblé tous ces artistes cette semaine. Bien, il rencontrait François Legault ce matin pour en discuter. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant en communication, stratège. Bonjour Carl.
Bonjour.
Oui, alors Paul, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que cette rencontre, à la demande de François Legault, est un geste positif?
Assurément, c'est un geste d'ouverture, mais c'est seulement le début du travail pour les gens qui souhaitent que la coalition Avenir Québec en fasse plus pour l'environnement. Parce que je veux bien croire que François Legault ait fait un mea culpa, mais il parlait autant d'une découverte de sa part que l'environnement, c'est un dossier important, que d'une réalisation que c'est important pour la population. Puis en fait, on ne sait pas si c'est lui qui a changé d'idée ou s'il constate que les gens veulent que lui change d'idée. Mais peu importe, l'important... Pour la suite des choses, ça va être de créer un rapport de force. Il faut qu'il y ait un mouvement citoyen et politique qui s'organise pour inciter le gouvernement caquiste à en faire plus. Et c'est pour ça que la manifestation de demain et la rencontre d'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Puis j'ajouterais que dans la dernière campagne électorale, on était nombreux, Bernard, à trouver que c'est une campagne plate, une campagne provincialiste où on s'intéressait juste aux trucs très, très pratico-pratiques. On était dans la gestion d'une province. Bien là, il y en a un projet de société rassembleur qui pense au moyen et à long terme, il est sur la table. Et moi, j'ai hâte de voir ce que François Legault va faire de plus parce que c'est un dossier pour lequel juste dire qu'il respecte ses engagements, c'est pas assez. Ses engagements étaient soit insuffisants ou parfois inexistants. Donc, il va devoir faire plus.
Carl, qu'est-ce que t'en penses?
Bien, c'est certain qu'au niveau du programme environnemental de François Legault, c'est incomplet, disons. Est-ce que le mouvement qui est en train de se créer, le pacte, là, est-ce que ça va amener vraiment un changement de perspective de la part de la CAQ? Trop tôt pour le dire, mais le fait que le premier ministre se montre ouvert à rencontrer M. Champagne immédiatement, je trouve que c'est un bon signe. Je trouve que c'est un bon signe que la porte soit ouverte. Est-ce qu'on peut vraiment travailler là-dessus avec la CAQ? On verra. Mais au moins, il y a un dialogue qui s'établit, puis ça, c'est un point très positif, d'après moi.
T'as peut-être remarqué, Bernard, que les artistes se font ramasser par plusieurs personnes.
Tu disais projet rassembleur, là, mais disons que sur les médias sociaux, c'est plus difficile de rassembler.
C'est difficile de rassembler des trolls. mais écoute, si je comprends bien, soit que les artistes s'occupent de leur carrière, ils s'occupent de vendre des cossins, et là, ils sont égoïstes, ils sont nombrilistes, ou ils s'occupent de projets importants pour l'ensemble de la société, puis là, ils sont des donneurs de leçons. Fait que soit qu'ils sont perdants, ou soit qu'ils sont perdants. Mais moi, je vois deux risques dans le mouvement. Entendons-nous, je trouve que le mouvement il est positif, mais deux petits risques. Le premier, si on axe ça trop sur les choix individuels, on oublie la dimension collective. C'est-à-dire, par exemple, tu peux demander à quelqu'un de s'acheter un véhicule éco-énergétique, mais ce n'est pas seulement une question de choix des individus, c'est une question des choix qui sont offerts à eux à cause des décisions politiques. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une loi qui exige que les constructeurs nous vendent des véhicules de plus en plus éco-énergétiques, qu'il y en ait plus dans leur flotte? Ou si tu veux que les gens délaissent leur voiture, ben pour ça, il faut qu'il y ait une offre de transport collectif. Donc, tu vois, on peut jamais dissocier la dimension de consommation de choix individuels de la dimension collective. Puis l'autre écueil, leur recommandation pour le gouvernement, parce qu'il en a, même si on n'en a pas suffisamment parlé, elles sont formulées en termes assez généraux. Sur le fond, ils ont raison. C'est juste que ça va être difficile de vendre, par exemple, dans la rue une consultation sur l'aménagement du territoire, même s'ils ont tout à fait raison sur le fond, parce que...
Non, mais ça, là, tu prends le bout qui est probablement le plus plate.
Oui, puis les cibles, mais c'est là. Ça, mais je vois pas... Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que ça serait non, bien de trouver un ou deux projets très, très concrets qu'on essaie de mettre de l'avant puis qu'on demande à François Legault sur tel aspect ou sur tel aspect, on aimerait ça qu'il bouge rapidement.
Non, mais garde, là, quand ils disent, là, par exemple, dans le pacte, là, engager l'appareil gouvernemental à donner l'exemple en réduisant ses propres émissions de 50 % d'ici 2030, bien, le gouvernement a toute une flotte de véhicules, là. Il pourrait décider. Tu sais, il y a des moyens. Le gouvernement peut prendre des moyens très concrets et donner l'exemple. Moi, je vais te dire, sur la responsabilité individuelle, je pense que c'est la chose la plus forte du pacte. Parce que, on va dire, là, les appels à la vertu, là, puis les grandes déclarations où on pèle tout dans la cour des gouvernements, là, c'est facile, ça. Mais moi, ce que j'aime dans le pacte pour la transition, c'est qu'il commence d'abord au jeu. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que toi, tu peux faire, Paul? Qu'est-ce que Carl peut faire?
C'est un appel et là, à la responsabilisation,
Oui, à la responsabilité individuelle. Exact. T'sais, alors, ça dépend de moi d'acheter un véhicule hybride la prochaine fois que je vais m'acheter une voiture. Ça dépend de moi, à un moment donné, de m'installer un bac de compost dans le fond de ma cour, même si ça me fait quiller, comprends-tu? Ça dépend de moi, à un moment donné, de regarder la quantité de plastique qui va avec le produit que j'achète. Ça dépend de moi de décider, oui, une fois par semaine, au lieu de manger de la viande rouge, je vais manger autre chose. Parce que si on additionne tous les repas de viande rouge qu'on mange en moins, ça va finir par faire une différence. Alors, tu as raison de dire, Paul, tu as raison de dire qu'il y a, il y a une part importante du politique là-dedans. Mais il y a une part importante qui nous regarde aussi. Puis il ne faut pas toujours attendre après le collectif puis le politique.
Mais non, mais les deux vont ensemble. Puis les citoyens qui changent leur comportement vont devenir plus mobilisés et plus exigeants à l'égard de leur gouvernement. Je suis tout à fait d'accord. Mais regarde, par exemple, aussi au choix des véhicules. Bien, c'est certain que si on n'offre pas, par exemple, de système bonus-malus, bien, on ne va pas forcément inciter les gens à aller vers un véhicule plus éco-énergétique. Exact. Mais il y a plein de mesures comme ça. Donc, moi, je dis juste qu'il ne faut pas dissocier l'individuel du collectif. Puis encore une fois, je ne dis pas que c'est ce que les artistes font, mais je suis soucieux que, pour la suite des choses, qu'on axe le discours sur les deux volets.
Puis d'accord.
Aussi, sur ce point-là, là, juste avant que tu continues,
vas-y,
Paul,
vas-y, Carl.
On parle des artistes, mais le regroupement, là, c'est pas juste des artistes. Et c'est comme ça que c'est sorti, c'est un peu dommage, mais dans le regroupement, il y a des scientifiques, il y a des gens d'affaires. Regarde,
il y a des intellectuels.
Claude Lalonde, la VP de Cascade, qui est là.
Mais là, c'est il est rendu à 100. Il était 106 000 personnes à l'avoir signé un matin. C'est pas tous des artistes, ça, là.
Mais
là,
non, c'est sûr, ça. Et même le groupe initial, il y avait beaucoup de scientifiques, des professeurs, des médecins, des gens d'affaires, des autochtones. Claude Bellan, l'ex-président de Desjardins, je veux dire, je sais pas s'il chante bien sous la douche, là, mais c'est pas vraiment un artiste, gars-là. Tu sais? Alors, il faut pas essayer de réduire ça. Et c'est un peu dommage la réaction sur les médias sociaux qui disent les artistes qui nous disent quoi faire encore. Mais c'est pas vrai, c'est plus large que ça.
Ouais, tout à fait raison, tu fais bien de le souligner. Mais une autre chose aussi, je pense qu'il va falloir réussir à vendre l'environnement autrement à la Coalition Avenir Québec. Moi, ce que je suggérerais, c'est d'expliquer à M. Legault comment l'environnement peut être une façon de faire avancer le nationalisme économique et aussi la qualité de vie. Puis on sait, c'est deux thèmes qui sont chers à M. Legault.
Oui.
Quand je parle du nationalisme économique, écoute, on connaît tous le déficit commercial du Québec d'à peu près 10 milliards, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui s'en va à l'étranger avec l'achat des véhicules et aussi l'achat de pétrole.
Pétrole, ben oui.
Qualité de vie, ben les gens pris dans le trafic, plein de mesures dont on parlait hier, aussi plus pratico-pratiques au voiturage, télétravail. Et quand je parle de nationalisme économique, ben M. Legault a déjà commencé à réfléchir à ça, entre autres avec l'exportation d'hydroélectricité. On le sait, notre voisin ontarien, il y a beaucoup de centrales nucléaires. Bon, je comprends qu'elles ne sont pas émettrices de gaz à effet de serre, mais elles posent un certain problème environnemental, mais il y a aussi du charbon en Ontario. Bref, essayer de lui montrer que ça peut être une façon pour le Québec d'être un pionnier, d'être un leader économique, puis de développer de nouvelles filières. Puis, juste revenir, peut-être finir là-dessus, sur la stratégie de l'aménagement. Ça a l'air formulé de façon bien ben plate comme ça, mais pour au Québec, on s'entend que nos défis, notre réduction de gaz à effet de serre, il faut la faire en transport. Or, le transport, quand je disais que ça sort du simple choix individuel, c'est que tout est une question d'aménagement du territoire. Et de plus en plus, les experts nous disent que si on veut avoir une vision environnementale du Québec, on doit avoir une vision de l'urbanisme d'abord et avant tout. Comment on aménage le territoire, la densité, en effet, lutter contre l'étalement urbain, comment on planifie le réseau de transport. Et ça relève du gouvernement. Puis il part des mesures bien, bien plates, mais qui vont avoir un effet majeur, comme par exemple faire en sorte que les villes ne soient plus dépendantes des taxes foncières. Parce que c'est parce que les municipalités, pour se financer, elles ont toujours besoin des taxes foncières, donc des nouvelles constructions résidentielles ou commerciales. Donc, tu es une ville, tu veux plus d'argent, tu veux élargir ton territoire, construire plus de maisons, construire plus de commerces. C'est ça qui crée l'étalement urbain. Si on change la fiscalité des villes et on les aide à être financées autrement, ben, elles n'auront plus l'incitatif de toujours aller vers l'étalement urbain. Mmh. Tu sais, il y a des causes à ça qui dépassent les décisions individuelles.
Tout à fait, tout à fait. C'est un très bon point. Et d'ailleurs, c'est par une curieuse coïncidence, on fête aujourd'hui les 40 ans de la loi sur le zonage agricole.
Mmh.
Ça fait 40 ans aujourd'hui que la loi sur le zonage agricole a été adoptée sous l'égide de Jean Garon, ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de René Lévesque. Et ça visait, entre autres, à protéger les terres agricoles. Enfin, ça visait d'abord et avant tout à protéger les terres agricoles sur lesquelles on construit de plus en plus de bungalows. Les bungalows dont tu parles, Paul. Cela étant dit, si on décidait d'aller là, c'est une méchante décision de société, cela. Ouais.
Mais les villes le demandent depuis longtemps.
Puis le monde qui sont installés en banlieue, là, qui sont installés dans le 450, là, on ne va pas leur demander de vendre leur maison puis de rentrer sur l'île de Montréal. De
toute façon, mais on peut mettre les freins à cette tendance.
On peut mettre une petite taxe sur leur véhicule. Hein, c'est ça qu'on peut faire aussi.
Une quoi?
La taxe sur les véhicules dont on parlait.
Arrêtez-moi
celle
ça.
Celle que t'aimes tant, là, Bernard.
On peut-tu avoir... tu sais, toujours le maudit premier réflexe de taxer le monde. On peut-tu essayer d'être créatif un peu avant d'aller en chercher toujours plus dans leurs poches? Bon, faut que j'arrête. Parce qu'au retour, je veux parler de cette décision de la Cour suprême, là. C'est un sujet, a priori, qui est un peu plate, mais qu'est-ce que tu veux? Il est important. Il faut prendre le temps de bien l'expliquer. Carl va nous expliquer ça au retour. De retour donc avec Carl et Paul. Carl, donc la Cour suprême qui juge que le fédéral, le gouvernement d'Ottawa, peut aller de l'avant avec la création d'une commission canadienne des valeurs mobilières. Puis ça, là, c'est une bataille qui oppose Ottawa et le Québec depuis des années, même sous les gouvernements libéraux très fédéralistes. Il disait, attention, là, la question des valeurs mobilières, ça doit relever d'abord et avant tout des provinces. Là, la Cour suprême a dit à Ottawa, vas-y, si tu veux en créer une commission, t'as le champ libre.
T'as le champ libre, mais il y a des conditions. D'une part, il faut qu'ils respectent une approche coopérative, et d'autre part, il faut laisser le choix aux provinces d'y adhérer ou non. N'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une défaite pour le Québec, parce que, comme tu l'as dit, là, c'est une bataille avec le fédéral qui dure depuis longtemps. Faut se rappeler que ce projet-là avait d'abord vu le jour sous le gouvernement de Stephen Harper en 2011, et son projet de commission pan-canadienne, il y avait eu des ratés, et la Cour avait renvoyé le gouvernement fédéral à la table de dessin, il y avait des contestations.
C'était le projet de Flaherty, là, hein? Flaherty,
exactement.
Le ministre des Finances de Harper.
Exactement, et l'argument du gouvernement fédéral, c'est essentiellement, c'est qu'on est un des seuls pays à pas avoir une commission nationale comme ça. Et donc, il se disait qu'il fallait arrimer les régimes ensemble pour pouvoir avoir une certaine cohésion au niveau des règles. Mais bon, évidemment, du Québec, eux, pensent que c'est un empiétement sur ses champs de compétences. C'est battu farouchement, avait gagné en cour d'appel en 2015.
Mais c'est parce que la crainte, c'est que si on permet la création d'une commission canadienne, l'industrie des valeurs mobilières, tout ce qui concerne le courtage, par exemple, en bourse et tout le reste, ça va se retrouver encore plus à Toronto, c'est déjà la capitale financière du Canada, Toronto, mais bon, Montréal a quand même réussi à garder une certaine part de contrôle sur cette industrie-là, liée aux institutions financières qui sont sur notre territoire. Bon, il y a un certain nombre de choses qu'on a réussi à faire, mais si on permet au fédéral d'aller de l'avant, la crainte depuis le départ, c'est de dire on va consolider encore plus l'industrie des services financiers à Toronto. Et donc, on va perdre des emplois, nous autres, au Québec et à Montréal en particulier.
Oui, exactement. Et bon, là, il faut dire que la Cour suprême, la décision était unanime.
Unanime?
Donc, ah, unanime. Oui. C'était unanime. Il n'y a pas de dissension.
Alors,
là,
les trois juges du Québec, ils sont d'accord avec ça, eux autres.
Et voilà. Et donc, mais comme je te dis, ils ont mis des conditions, mais dans la pratique, là, lorsque la commission sera vraiment en place, tu as tout à fait raison que
les décisions pas
vont
Montréal,
se déplacer
hein,
à Toronto.
Et hein,
quand les camions de la Brink Kit, là, ils s'en vont, c'est un one-way. Ça revient pas de servir pas de bord.
J'ajouterais là-dessus qu'il y a déjà aussi la banque d'infrastructure qui est installée à Toronto. Donc ça contribue aussi à faire de Toronto une espèce d'aspirateur de l'expertise financière, comptable, juridique, etc., qui draine les ressources du Québec et les amène vers l'Ontario.
Cela étant dit, corrigez-moi, les amis, là, mais est-ce que Justin Trudeau ou quelqu'un de son gouvernement a manifesté l'intention, depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis 2015, l'intention de créer une commission pan-canadienne des valeurs mobilières? Est-ce qu'ils ont manifesté l'intérêt de reprendre de prendre le relais, dans le fond, de la volonté de Harper?
Oui,
mais écoute, vas-y, Paul.
Ben moi, ma compréhension, c'est que oui, ils avaient relancé le dossier. Au début, comme tu l'as dit, c'était le dossier de Jim Flaherty, feu ministre des Finances sous le gouvernement Harper. Puis on pensait que c'était une lubie de M. Flaherty, qui était un ancien du gouvernement Harris, qui était un Ontarien. Puis finalement, ça a été repris par l'autre ministre conservateur, Joe Oliver. Et par la suite, les libéraux fédéraux de Justin Trudeau n'ont pas abandonné l'idée.
Et Bill Morneau a réagi par voie de communiqué à la décision de la Cour suprême. Là, il dit essentiellement, mais je peux le citer, « Notre gouvernement continuera de collaborer avec les provinces et les territoires participants afin de mettre au point un régime coopératif qui protégera mieux les investisseurs, qui favorisera l'efficience et l'innovation et qui permettra au système réglementaire de mieux contrer les risques systémiques sur les marchés des capitaux. » Il dit aussi qu'il veut maintenir un dialogue avec les provinces non participantes. Pour l'instant, là, c'est pas toutes les provinces. Hein. Il n'y a pas juste le Québec qui était là-dedans, évidemment. Mais pour l'instant, l'Ontario, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon semblent être d'accord avec cette proposition fédérale.
Est-ce qu'on a des réactions du côté de Québec, Paul?
Pas encore. Le ministre des Finances, Éric Girard, devrait prendre la parole. Évidemment, c'est une position consensuelle, comme tu l'as dit, à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun parti qui est en faveur d'un régime pan-canadien des valeurs mobilières, qu'il soit coopératif ou coercitif.
On s'entend. Carl, rapidement, cette décision d'un juge aux États-Unis de suspendre la construction de l'oléoduc, du pipeline, on va dire, Keystone XL. Ça, on ne l'avait pas vu venir, cela. Là.
Non, on ne l'avait pas vu venir. C'est un autre coup dur pour le gouvernement Trudeau et pour le gouvernement Notley en Alberta. Et une victoire pour les environnementaux et les activistes autochtones. Keystone XL, on le rappelle rapidement, là, c'est un projet de 8 milliards de dollars qui va faire le lien entre l'Alberta et le Texas. Il y a des installations en dessous au Montana, justement, mais au Nebraska également, pour faire la transformation du pétrole brut. C'est un projet de presque 2000 kilomètres. C'est 830 000 barils de pétrole brut par jour. Et là, le juge dit... faut arrêter ça. Ça prend plus de temps pour étudier l'impact environnemental. Faut analyser comment les effets cumulatifs de la construction de ce pipeline-là va avoir sur les émissions de gaz à effet de serre. Le juge parle également d'une modélisation déficiente des déversements potentiels de pétrole, une mauvaise évaluation de l'effet des prix du pétrole sur la viabilité du pipeline et évidemment consultation avec les populations autochtones. Il n'y a pas juste au Canada, là, après le Trans Mountain, là, un juge américain qui prend une décision qui va faire mal à l'industrie de pétrolière du Canada.
Mais je veux dire, comme toi, c'est une mauvaise décision pour Trudeau, parce que ça veut dire que ça va mettre encore plus de pression sur la construction du pipeline Trans Mountain, hein, pour sortir le pétrole de l'Alberta. Et pour les Albertains vont être furieux, là.
Ben absolument, parce qu'ils n'ont pas d'accès, là.
Ils sont enclavés, là.
Et ils peuvent pas aller vers l'ouest, ils peuvent pas aller vers le sud, puis vers l'est, ben NRJS, malgré ce qu'Andrew Scheer souhaite, il n'y a pas de projet sur la table. Alors, le développement des nouveaux marchés, il est pas là. Et évidemment, il n'y a pas de projet de raffinerie non plus. Donc, les perspectives d'avenir, à court terme, à tout le moins, ne sont pas très reluisantes.
La pression augmente sur Trans Mountain.
Ben oui, c'est ça. C'est clair.
Ce qui est le fun, c'est que c'est notre pipeline. Hein? Il l'a acheté, il l'a nationalisé. Fait que...
oui, c'est ça. Carl Bélanger, consultant stratège. Merci, Carl.
Merci.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Merci, Paul.
Merci.
On s'arrête et on a une bonne deuxième heure de prévu. Restez avec nous.